Voilà, bonjour à chacun. Effectivement, on va poursuivre notre lecture dans l'Évangile selon Luc. Je vous invite à l'ouvrir d'ailleurs au chapitre 10 à partir du verset 21. Donc voilà, j'espère que chacun va bien. Et la semaine s'est bien passée. En tout cas, c'est sympa aussi de voir les vidéos des uns et des autres. Voilà, même si on n'a pas pu se rencontrer depuis quelque temps, de quand même se voir, ça fait du bien. Donc, Luc, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en privé: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc voilà le texte que nous allons traiter ce matin. Dernièrement, j'étais interpellé par le titre d'un livre dont le titre était Chrétien et heureux. Et ce titre m'interpelle parce que quelque part, il met en doute qu'on puisse être à la fois chrétien et à la fois heureux, comme si ces deux termes chrétien et heureux ne vont pas ensemble. Mais c'est vrai, à y réfléchir, quand on regarde parfois la conception que nos amis ou les personnes autour de nous ont du christianisme, ce n'est pas forcément le terme heureux qui va sortir en premier, qui vient immédiatement à la pensée. Parfois, on entend d'autres mots comme austère, moralisme, interdiction, privation, ou voire même discipline. C'est plutôt ces mots-là qui vont sortir en premier. Et c'est là que notre texte, je trouve, est très marquant. C'est que c'est la joie qui est au centre de ce texte. On l'a chanté. La joie, et c'est justement le thème de notre texte ici, qui suit les récits précédents. Luc commence hein, en ce même temps, donc à ce même moment ou à cette même heure, selon la traduction. Mais c'est la joie qui est au centre de ce texte. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous, en fait, à cette joie. Et j'aimerais juste faire trois remarques sur ce texte. Première remarque, c'est que la Trinité divine vit une relation joyeuse. Dieu, la Trinité divine, vit une relation joyeuse. Et en nous relatant ce récit, en fait, Luc nous offre un moment assez rare ici, dans lequel il nous permet de contempler les relations au sein de la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on voit que ces relations sont marquées par la joie. Et ce qui est intéressant, c'est de noter les liens de cette joie. On voit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de la joie que Jésus-Christ éprouve. Et cette joie que Jésus-Christ éprouve le conduit, lui, à louer Dieu. Et il va nous le dire, louer Dieu aussi signifie, entre autres, révéler le Père. Fin du verset 23, nul ne connaît le Père, ni qui le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà comment il va louer, il va adorer, il va être dans la joie avec le Père. On a donc une chaîne de la joie qui va du Saint-Esprit qui anime le Fils et qui à son tour exalte le Père et se réjouit dans le Père. dans plusieurs de ses ouvrages, que ce soit des ouvrages de fiction ou non de fiction, C.S. Lewis, c'est celui notamment qui a écrit les Chroniques de Narnia, qui est son œuvre la plus connue actuellement, nous parle de la Trinité, notamment des liens dans la Trinité en utilisant l'image de la danse. Alors, voilà, il sait que ça pourrait choquer et il avertit, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais il parle de ces liens comme une danse, un peu comme parfois on peut se retrouver entre amis et former un cercle et il y a un ami à tour de rôle qui est au milieu, et puis on tape des mains et puis on s'amuse. En fait, on est réjoui de voir cet ami qui est au milieu. Et C.S. Lewis utilise cette image en fait pour nous dire que Dieu n'est pas une réalité statique, mais Dieu est un être dynamique, un être qui a de la joie, qui a des sentiments, qui est une réalité vibrante, il nous dit aussi. Et dans cette danse de la divinité, de la Trinité, en fait, c'est que chacun des deux autres membres se retrouve, en fait, chacun se retrouve autour des deux autres membres, c'est que chacun danse autour les uns des autres dans un partage sans fin de joie et d'amour. Chacun fait de sa joie l'autre. Donc, ce n'est pas une recherche de joie personnelle, d'intérêt personnel, de gloire personnelle qu'il y a dans la Trinité, comme si chacun tirait pardon, la couverture à soi. Mais Luc nous donne ici d'assister à cette joie, à cette danse de joie, où chacun s'exprime dans l'élévation de l'autre. On donne la joie à l'autre. Donc, on est très loin d'une vision austère ici et morne et triste de Dieu. Au contraire, on voit un Dieu qui se réjouit et qui se réjouit l'un dans l'autre. Et ce qui est encore plus magnifique dans notre texte, c'est de voir la raison de cette joie. Et c'est notre deuxième remarque. Donc, première chose, c'est que la Trinité vit une relation joyeuse, mais il nous invite aussi à cette joie. Et c'est notre deuxième remarque, le salut que Dieu nous parle, le sauvetage de la Bible est une invitation de la part de la Trinité à cette joie. En effet, quand on voit Jésus ici qui tressaille de joie par l'œuvre du Saint-Esprit pour louer le Père, il dit ceci, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Là, on peut se poser la question, c'est quoi ces choses? Ou cela, selon votre traduction. Et en fait, ça fait référence à ce qui vient de se passer, verset 21, en ce moment même, juste à cet instant-là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a entraîné ces choses, donc, qui fait cette joie. Et c'est quoi qui vient de se passer? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est ce qu'il y a juste avant dans notre texte, c'est le retour des 70 disciples que Jésus avait envoyés en mission. Et ils sont revenus tout joyeux vers Jésus-Christ, et Jésus avait eu cette vision de Satan qui tombait du ciel vers la terre. Et il leur avait dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous puissiez marcher ou que les démons sont soumis en votre nom, etc. Mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Donc Jésus est en train de louer ici Dieu, le Père, pour son plan de sauvetage envers les hommes et pour la destruction du destructeur qui est en train de s'accomplir. Quelque part, en fait, Jésus nous rappelle que l'être humain, effectivement, est sous la domination de Satan. On le remarque pas forcément, mais quelle que soit notre manière de vivre qui est loin de Dieu, l'être humain est alors séparé de Dieu à cause de nos penchants mauvais, à cause de nos moqueries, de nos insultes, mais aussi avec notre volonté de diriger tout seul notre vie. Sans égard pour celui qui nous a créés, alors nous sommes séparés de Dieu. Et donc la Bible nous dit, on est sous la domination de Satan. Mais par sa vie, par la vie de Jésus-Christ qui va aboutir à son sacrifice ultime, Satan est défait. Il tombe du ciel et les noms des disciples, de ceux qui se confient en Jésus-Christ, peuvent être écrits au ciel, là où personne ne pourra les enlever. Donc Satan perd son pouvoir. Et par Jésus-Christ, il a perdu son pouvoir et son autorité sur ceux qui se confient en Jésus-Christ pour la réconciliation. Ainsi, par l'envoi de ses disciples qui annonce la venue de Jésus-Christ, Satan continue à reculer. Voilà l'origine de la joie de Jésus-Christ. Voilà ce qui pousse Jésus-Christ à louer son Père. Et il nous décrit cela comme le dessein bienveillant de Dieu, c'est-à-dire ce bon projet de Dieu pour l'être humain, ce projet dans lequel Dieu s'est engagé, en fait, dès le jardin d'Éden, en faisant cette promesse à Adam et Ève, en parlant au serpent, à Satan notamment, qui va détruire le destructeur, qui va détruire celui qui a causé, entre autres, cette séparation entre Dieu et l'être humain, et qu'il avait annoncé aussi par les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà notre ultime bien, dit Jésus-Christ, notre ultime joie, notre ultime bonheur, qui n'est pas dans notre santé, mais dans cette relation rétablie avec notre Créateur. Cette relation marquée par le pardon et par la paix. Cette joie de pouvoir revenir dans la présence de Dieu. Donc on a une boucle de la joie ici. Pardon. Dieu a imaginé, Dieu le Père a imaginé le plan de sauvetage, il l'a mis en place. Dieu le Fils s'est incarné pour apporter ce sauvetage, notamment par son sacrifice et l'annonce du pardon. Et alors que l'annonce du pardon et de la réconciliation a commencé avec l'envoi des 70, la réalisation de ce plan commence à prendre place alors que le Fils va vers la croix. Et cela conduit justement le Fils, poussé par le Saint-Esprit dans la joie, et loue le Père. Donc on part du Père, on vient sur l'incarnation, conduit par le Saint-Esprit, pour retourner au Père. Autrement dit, la joie de la Trinité n'est pas une joie qu'on peut regarder en étant mis de côté. Au contraire, la joie de cette Trinité, la joie divine qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est une invitation de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit à aller rejoindre dans cette joie, aller rejoindre dans cette danse avec la Trinité à cause de ce sauvetage, à cause du dessein bienveillant de Dieu. Cette invitation à danser de joie autour d'eux et avec eux pour manifester notre joie de leur appartenir. Notre joie d'avoir retrouvé la relation avec notre Créateur. Notre joie de savoir pardonner, d'avoir de la valeur, de se savoir aimer, de savoir avoir du sens dans notre vie. Et c'est effectivement la grande vision que nous rappellent les derniers chapitres de l'Apocalypse. Le paradis n'est pas simplement en fait l'absence de mort ou l'absence de souffrance et de mal. C'est vrai qu'il y aura cela, nous dit Jésus. Mais c'est pas seulement cela. Et c'est pas non plus simplement la présence du bien et de la vie éternelle. Que ce qui est joyeux, c'est que en fait on va vivre tout le temps et qu'il y aura plus de difficultés. Non. Le cœur du paradis, le cœur de la joie, de la beauté du paradis, c'est justement d'être dans cette relation marquée par la joie, de pouvoir être à nouveau avec celui qui nous a créés et de danser avec lui, autour de lui, ces retrouvailles marquées par le plaisir et la fête continuelle grâce à ce lien. Et cette joie et cette fête commencent avec Jésus-Christ ici-bas sur terre, et c'est lui qui vient nous inviter à rejoindre cette joie et cette danse. Et c'est notre troisième point. Donc, premier point, la Trinité vit une relation joyeuse. Le sauvetage de Dieu, le salut, notre deuxième point, est une invitation à cette joie. Et notre troisième point, ici notre troisième remarque, c'est que cette invitation à l'intimité divine et joyeuse ne se trouve que en Jésus-Christ. C'est que grâce et par Jésus-Christ que nous pouvons accéder à cette danse joyeuse de la Trinité. Comment on peut connaître une nouvelle personne? Quand on arrive à une nouvelle place de travail, quand on arrive peut-être dans une nouvelle classe, dans un nouveau camp ou autre, comment on peut faire connaissance avec quelqu'un? Si on réfléchit bien, il y a deux manières en fait de faire connaissance avec quelqu'un. La première manière, c'est d'observer la personne. On regarde son physique, sa manière d'agir avec les autres autour d'elle, on regarde ses réactions. Est-ce que c'est une personne qui se met toujours en avant, qui est toujours en train de parler, qui ne laisse jamais la place aux autres? Et cette première manière nous donne un aperçu que tout le monde, quelque part, peut avoir, et on sait par expérience que ça peut se révéler trompeur. C'est le premier avis qu'on peut se faire. La deuxième manière de connaître une personne, c'est que cette personne vienne vers nous, qu'elle s'ouvre à nous, qu'elle accepte de nous parler et que le dialogue commence, qu'elle nous parle de sa vie, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses craintes. Et cela nous aide à comprendre ces réactions qu'on a pu observer et confirmer ou infirmer nos premières impressions. Pour des personnes très lointaines, comme des stars comme Matt Damon, comme Tom Cruise ou autres, on a beau lire dans toutes les press people des choses sur eux, on a beau chercher à les observer, en fait, tant qu'elles ne nous parlent pas, on ne peut pas les connaître. Et cela est d'autant plus vrai pour Dieu qu'on ne voit pas, à qui on n'a pas accès. On ne peut pas non plus l'observer à cause de nos fautes et de sa sainteté et qui entraîne cette séparation. Donc pour le connaître, on a absolument besoin que lui se révèle. C'est-à-dire que lui fasse le premier pas vers nous pour qu'on puisse entrer en relation avec lui. Et c'est ce que Jésus affirme ici par deux fois, verset 21. Il loue Dieu justement parce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et qu'il les a révélées aux enfants. Et verset 22, tout m'a été remis par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ce besoin de cette révélation, ce besoin que Dieu vienne et se fasse connaître. Qu'est-ce que ça signifie? Pour observer les étoiles de l'univers, on a besoin d'un télescope. Sans ce télescope, on ne verra pas grand-chose. Mais grâce à ce télescope, on peut voir, on peut observer les étoiles, sauf si, quelque part, il est plein de poussière ou qu'on a mis sur les lentilles nos doigts pleins de graisse qui empêchent la vision. Et pour connaître Dieu, on a aussi besoin d'un instrument. Et cet instrument, quelque part, c'est notre être intérieur, c'est notre âme. Mais si notre âme est sale, on aura du mal à voir Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ affirme ici, en parlant que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais qu'il les a révélées aux enfants. Ce n'est pas que Dieu est contre l'intelligence et qu'il est pour l'imbécilité. Mais à tous ceux qui pensent pouvoir se débrouiller seuls, à tous ceux qui se reposent sur leur sagesse, sur leur réflexion, sur leurs connaissances et autres aspects personnels pour s'approcher de Dieu ou pour conduire leur vie comme eux ils veulent, ceux-là ne peuvent pas connaître Dieu, nous dit Jésus. Leur instrument est sali par cette saleté de l'indépendance, par cette saleté de l'orgueil, par cette saleté du rejet de Dieu. Alors que la situation est pleinement différente pour les enfants. Et dans le contexte, les enfants ne sont pas des êtres innocents, ce ne sont pas des petits anges, des êtres mignons qui n'ont fait aucun mal. Jésus nous parle des enfants parce qu'en fait, les enfants à l'époque n'avaient aucun statut. Ils n'avaient pas de valeur personnelle, ils étaient dépendants et donc humbles. Et c'est cela que Jésus nous demande. Il se révèle, il se fait connaître à celui qui est humble, à ceux qui reconnaissent leurs besoins. Ça ne veut pas dire que notre instrument est parfait, que notre âme est en bon état, mais au moins ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide, que leur âme reconnaisse qu'ils ne se suffisent pas. Ils ont besoin de l'intervention de Dieu. La révélation de ces choses, ce plan de sauvetage par le Père aux humbles, se fait par la personne du Fils. C'est seulement Jésus-Christ qui nous donne accès. Il y a des vaches à côté de chez nous, hein, donc je suis embêté par une mouche. C'est seulement lui qui donne accès à la Trinité. C'est seulement lui qui nous donne accès à cette danse de joie et d'adoration dans laquelle l'âme humaine retrouve son sens parce qu'elle a été créée pour participer à cette danse. Alors, quelles sont les implications de cela ? Première implication, c'est que voilà, Dieu nous invite à la joie. Dieu nous invite à l'intimité de cette relation divine, non pas sur la base de nos accomplissements, non pas sur la base de la beauté de notre service, mais sur la base de son amour pour nous uniquement. Cet amour qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et ce n'est pas juste en Jésus-Christ, mais cet amour qui s'est manifesté jusqu'à la mort pour nous, à notre place, Jésus-Christ crucifié. Voilà à quel point Dieu nous aime. Ah. Donc, Dieu ne nous aime pas pour tout ce qu'on fait. Dieu ne nous aime pas pour nos accomplissements. Dieu ne nous aime pas pour notre belle obéissance, parce qu'on respecte bien tous ses commandements. Dieu nous aime parce qu'il a fait le choix de nous aimer. Et c'est parce qu'on l'aime qu'on veut obéir à ses commandements. C'est parce qu'on l'aime qu'on trouve de la joie à être à son écoute et à vivre avec lui selon ce que lui, il aime. Mais voilà, cette première implication, c'est que cette joie est pour nous aujourd'hui et elle est, on est juste invité à l'accueillir, à la recevoir, comme ce cadeau d'une personne qui vient vers nous qui dit moi, je veux t'aimer et je veux t'inviter dans ma relation joyeuse. Tu n'as pas à la mériter. Quoi que tu fasses ne sera jamais suffisant. Mais Jésus-Christ a fait ce qui est suffisant pour nous aimer, pour t'aimer toi. Dieu veut t'aimer et tu n'as pas à gagner son amour. Les conséquences sont parce qu'on se sait aimer. Deuxième application, c'est que c'est justement de connaître Jésus-Christ qui est la source de notre joie. Et cela ne signifie pas d'être assis dans l'attente d'une illumination intérieure. Oui, le Saint-Esprit veut nous illuminer par l'Écriture qu'il a inspirée. Donc, les paroles de Jésus ici ne rejettent pas l'étude, ne rejettent pas la réflexion en tant que telle. Ce n'est pas un rejet de tout le travail des apôtres et des prophètes qui ont cherché à connaître Dieu et qui nous ont transmis sa parole et qui nous ont appelés à nous y attacher. Et ces paroles rejettent la réflexion quand l'étude et la réflexion sont indépendantes de Dieu. Mais quand elles sont au service de Dieu, et Dieu est l'être le plus intelligent, celui qui a la plus grande réflexion, donc qui ne se rejette pas lui-même, mais quand ces éléments sont au service de Dieu, quand elles sont mises à son service parce qu'elles ont été créées par lui, alors elles sont son instrument puissant dans la main du Saint-Esprit pour nous illuminer et nous faire connaître Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Dieu veut nous transmettre sa joie, nous permettre de saisir cette joie et de grandir avec lui. Pour prendre une autre image, par l'étude de la parole, le Saint-Esprit ne nous demande pas de mettre Dieu sous la loupe. Mais le Saint-Esprit nous pousse à étudier cette parole qu'il a inspirée pour laisser Dieu nous mettre sous sa loupe, pour nous transformer, pour nous laisser le connaître qu'il se révèle à nous au travers d'elle et ainsi connaître le Père et avoir cette joie du Fils. Et dernière application, c'est que cette joie dont parle Jésus-Christ ici n'est pas une joie naïve ni une joie éthérée. Jésus parle de cette joie dans le contexte du retour des 70 disciples, n'est-ce pas? 70 disciples qu'il a envoyés avec des consignes en leur disant notamment qu'ils sont insuffisants pour accomplir cette mission, qu'ils vont être vulnérables, en danger dans cette mission, qu'ils vont être dépendants et qu'ils même ils vont être rejetés dans cette mission. Et de la même manière, Jésus qui vit cette joie, la vit alors qu'il se trouve sur son chemin pour Jérusalem. Il vit la joie de l'accomplissement du projet de Dieu alors qu'il va vers son lieu d'exécution pour accomplir ce sauvetage. Et c'est alors qu'il est en chemin vers son lieu d'exécution qu'il tressaille de joie. Non pas à cause de la souffrance, non pas à cause de sa mort, mais parce qu'il sait très bien ce que sa mort et cette souffrance vont entraîner pour nous. Et donc, il regarde à la joie de la réconciliation. Il regarde à la joie de la transformation qui lui permet de continuer à avancer sur ce chemin vers Jérusalem. Parce que c'est là, à Jérusalem, c'est là, sur cette croix, que Jésus va nous révéler le Père comme jamais il n'a été révélé. C'est là, à la croix, que la sainteté de Dieu va paraître avec toute sa grandeur. Dieu est tellement saint que le péché doit entraîner la mort. Et c'est son fils qui meurt à la croix. Un être innocent qui meurt pour des coupables. La sainteté de Dieu est si grande que le prix, le juste prix, doit être payé. À la croix, c'est la justice de Dieu qui brille également. Encore une fois, le péché doit être puni. Le péché est tellement grave qu'il doit être puni. Et Dieu nous montre qu'il est juste. Et nous avons le privilège de suivre un Dieu juste, qui voit toutes choses, qui va juger chacun justement. Nous, on juge seulement en fonction de ce qu'on voit. Et même dans nos tribunaux, on voit très bien que le jugement, la punition n'est jamais à la hauteur du dommage. Soit il est exagéré, soit il est inférieur. Mais on ne sait pas bien. On ne peut pas, on n'a pas la capacité parce qu'on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, de bien juger. Mais la croix nous dit, Dieu est juste. Et le jugement parfait sera rendu. Et c'est à cause de cela que, encore aujourd'hui, face à toutes les injustices, on a de l'espérance. Le juste jugement a été rendu et sera rendu. À la croix, c'est toute l'amour et la bonté de Dieu qui sont manifestés également. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il donne son Fils. C'est ce fameux Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde. Et ce n'est pas un joli petit monde qu'il a aimé. Ce n'est pas un monde de bisounours qu'il a aimé. C'est un monde rebelle. Un monde qu'il a rejeté, qu'il a craché à la figure. C'est un monde qui lui dit, dégage, on ne veut pas de toi. Mais il a continué à aimer ce monde et à lui tendre la main. Et cette main tendue, c'est Jésus-Christ crucifié. À la croix, il y a toute la patience de Dieu qui est démontrée de manière impressionnante. Cette mort qui aurait dû tomber dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. Et Dieu a reporté son jugement. Et toute cette histoire entre le jardin d'Éden et la croix et la démonstration, c'est l'histoire de la patience de Dieu envers nous, qui dit, je ne veux pas vous détruire, je veux vous aimer et je vais patienter jusqu'à ce que le juste jugement tombe, jusqu'à ce que le péché soit vraiment puni. Et il ne sera pas puni en vous, il sera puni dans mon Fils, parce que ma patience est pour vous aimer et pour vous rétablir dans le jardin, dans la joie. Donc voilà ce que la croix nous révèle du Père, et on pourrait le faire et poursuivre beaucoup d'autres aspects de la personne de Dieu. Mais voilà ce que le Fils nous révèle du Père. Voilà la joie du Fils. Voilà sa joie à nous montrer qui est le Père, même si ça passe par la croix. Donc cette joie que Jésus nous parle, qu'il éprouve, n'est pas une joie naïve ou éthérée. ce n'est pas une joie facile qui interdit les aspérités de la vie, mais c'est une joie qui permet de les traverser. C'est une joie qui permet d'avancer sur ce chemin, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les dangers de la mission, quels que soient les rejets. Mais c'est cette joie de voir à long terme et d'avoir les yeux fixés sur son aboutissement. Le Père qui est révélé, le salut qui est propagé, la justice qui est accomplie, et de danser déjà parce que nous avons commencé à être réunis à ce Dieu trinitaire qui est dans la joie et qui nous invite à le rejoindre dans la joie. Voilà l'aboutissement du projet bienveillant de Dieu pour nous. Voilà la joie dont Dieu veut nous remplir aujourd'hui. Voilà la manière dont Dieu veut nous remplir de sa joie aujourd'hui. Non pas pour oublier la vie, mais pour avancer et traverser cette vie en comptant sur lui, parce que lui a tout accompli pour nous. La Trinité vit une relation joyeuse en son sein. Elle nous invite à la rejoindre et cette invitation se fait en Jésus-Christ par son œuvre complète et totale de salut pour nous. Je vous invite à prier.